Bonjour, bienvenue dans Circonvolution, le nouveau podcast sur le cirque contemporain suisse. Circonvolution, c'est à la fois l'idée de mouvement, de rotation, comme autour d'une planète. C'est aérien et ça bouge, comme au cirque. C'est cérébral aussi, une pensée en évolution. À l'image de ce titre, ce podcast veut apporter une réflexion sur le cirque contemporain suisse et son évolution. Décortiquer cet art en mouvement, raconter la vie d'artiste par les artistes, explorer les divers métiers liés et surtout soutenir cet art en plein essor. Moi, c'est Estelle Borel et je suis aussi artiste de cirque. Pour ce quatrième épisode, j'ai profité d'être encore avec l'équipe du projet Reboot afin d'interviewer Yaël Antoine, co-porteuse du projet Reboot, et discuter avec elle de son parcours, son expérience, sa vision du cirque contemporain et ses idéaux, notamment en ce qui concerne les écoles de cirque et leur évolution. J'ai de la chance aujourd'hui d'être avec Yaël Antoine pour ce podcast sous forme de portrait, interview, conversation. Je vais essayer de te présenter comment moi je te perçois, parce qu'on ne se connaît pas super bien, mais en même temps on se suit sur les réseaux sociaux et dans le milieu, parce qu'on est dans des milieux quand même assez proches.
Surtout on a été fil de feriste.
Et on a été fil de feriste toutes les deux, c'est vrai. On est en tout cas fil de feriste. Et du coup voilà, donc Yaël Antoine est une fil de feriste, pédagogue, circassienne, engagée militante, féministe, qui a multiples casquettes entre son engagement dans le cirque et dans la vie, et mère aussi, mère engagée aussi, et volontaire en tout cas de repenser le cirque dans la transmission et comment on le performe, avec bah, bien sûr le prisme féministe et puis un engagement très fort dans tout ce qui, comment je pourrais dire, protection en fait des élèves. Moi j'ai l'impression qu'en tout cas quand j'ai senti en discutant avec toi quelques fois ou quand j'ai lu certaines choses que tu as pu partager, c'est qu'en tout cas, il y a une grande attention à l'encadrement et à la protection des élèves. Et si tu veux rajouter, avant qu'on plonge là-dedans, d'autres choses sur ce que tu fais, plus concrètement, parce que tu as quand même une compagnie, collectif, préciser.
Alors, il faut savoir qu'en fait, effectivement, je travaille dans le cirque, mais j'ai une compagnie qui est plutôt dans le secteur des arts de la rue, la compagnie Diel, que je dirige et que je mets en scène. Je mets en scène tous les spectacles de cette compagnie et je porte tous les projets de cette compagnie depuis 21 ans maintenant. Voilà.
Et du coup, la compagnie d'elle, il y a le collectif des Tenaces. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour les personnes qui ne connaîtraient pas ou qui ne suivent pas encore, et Dieu sait que j'invite à suivre, qu'est-ce que les Tenaces font ?
Alors, les Tenaces, la collectif des Tenaces, sont hébergées par la compagnie d'elle. C'est-à-dire qu'on porte administrativement cette collective, et cette collective, elle rassemble aujourd'hui, je dirais, une douzaine. C'est assez variable. Il y a des moments où on est moins militante que d'autres. Elle rassemble une douzaine de personnes qui travaillent sur différents sujets. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que les Tenaces, elles, par exemple, elles portent une charte des parentalités. Elles réfléchissent à la question des parentalités, des parents artistes ou des parents programmateuristes, des parents en fait à forte mobilité. Elles réfléchissent également à la question, très prochainement, elles vont travailler sur les pédagogies critiques, c'est-à-dire qu'elles vont inviter le projet Reboot dont je fais partie en Suisse, c'est la raison pour laquelle je suis là. Elles vont inviter le projet Reboot pour 2 jours d'exploration des pédagogies critiques en avril prochain, le 12 et 13 avril prochain à la Grainerie. Mais elles travaillent aussi sur de l'écoute aux victimes, de l'accompagnement aux victimes. Elles tentent de visibiliser les travaux des unes et des autres. Et elles travaillent aussi sur les questions de discrimination, d'agisme, de grossophobie, toutes ces questions-là, en fait, qui méritent à la fois des temps théoriques réflexifs, des temps en non-mixité choisis, et après des temps d'application pratique. Voilà, donc les Tenaces, c'est un peu ça. Voilà. Et selon les événements, on peut être 12 à organiser, encadrer, mais on invite souvent des Tenaces, on considère qu'il y a plein de Tenaces partout, on en invite plein à nous rejoindre. Donc les Journées Tenaces, c'est à peu près entre 80 et 100 personnes.
Est-ce que tu peux définir un peu plus peut-être la raison d'existence des Tenaces, ou expliquer qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le cirque, qui peut-être à l'extérieur, pour les personnes qui n'en font pas, est un milieu qui serait, parce que marginal et artistique, du coup tout le monde aurait sa place, que c'est déjà plus avant-gardiste, c'est souvent ce qu'on entend, hein, que dans les arts, les artistes sont plus en avance ou plus progressistes, et que du coup, toutes ces questions de genre ou d'identité seraient moins un problème que dans la société, comme si on était une bulle exclue du système dans lequel on vit. Et du coup, expliquer pourquoi ou comment tout à coup il y a cette prise de conscience qui fait que
Eh ben oui, on fait du cirque, on fait de l'art, mais en fait, on ne peut pas s'extraire du monde dans lequel on vit, et on vit ces choses-là à travers le cirque aussi. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les tenaces existent ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant d'artistes qui réfléchissent à toutes ces questions et qui militent pour changer ça ?
Oui. Alors, les tenaces existent depuis maintenant 14 ans. Donc, elles sont arrivées avant la vague MeToo. C'est important de le dire parce qu'en fait, il y a eu vraiment une rupture entre avant MeToo et après MeToo dans la considération de ces discriminations, de ces violences. Les tenaces arrivent parce qu'en fait, il y a en France, moi j'ai parlé d'un point de vue français, un rapport qui a été mené par une femme qui s'appelle Reine Pratt en 2004 et en 2008. Elle a fait un rapport et elle a nommé des discriminations, c'est-à-dire l'absence de personnes racialisées au sein des programmations, l'absence de personnes sexisées au sein des programmations, la majorité des moyens et des visibilités accordées aux personnes hommes blancs. Voilà. Et donc, elle a nommé ça. Et ce rapport a été une espèce de déflagration dans le monde de la culture française. Et moi, j'ai eu la chance en fait, de rencontrer Reine Pratt. Et tout ce qu'elle a pu me raconter, en fait, a vraiment résonné en moi. C'est-à-dire que c'était quelque chose, je n'avais pas conscientisé, mais je sentais vraiment que je ne pouvais plus avancer. Je sentais que j'étais bloquée. Et j'ai commencé à comprendre que, effectivement, dans les écoles loisirs, on va pousser petites filles à faire certaines pratiques parce qu'elles sont plus graciles, plus souples. Ça, c'est pas forcément vrai, hein. C'est des choses qu'on se dit quand on voit une petite fille, quand on voit un petit garçon. Oui, on projette sur un petit garçon l'acrobate parce qu'il est plus turbulent, il va avoir plus d'aptitude à sauter, à prendre des risques. Et ce faisant, en fait, on crée des couloirs de verre qui vont être après, qui vont impacter les carrières puisque quand on va recruter sur des formations professionnelles ou sur des formations supérieures, on va valoriser la prise de risque et l'acrobatie. Et toutes les pratiques solo en périphérie qui vont être développées par les petites filles, en fait, elles ne vont pas être valorisées. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des jeunes femmes qui ont des niveaux plutôt intéressants dans leur pratique, dans leur spécialité, qui se retrouvent sur le carreau parce qu'elles n'ont pas le cursus, elles n'ont pas le niveau en acrobatie. Donc elles ne peuvent pas rentrer et se professionnaliser alors qu'en fait elles pourraient, à l'endroit où elles sont, de leur spécialité circassienne. Donc en fait ça c'est par exemple, c'était un premier constat. Et après les autres constats, c'est de voir que les moments tremplins, c'est-à-dire les espaces tremplins, en France il y a des espaces où on accompagne des jeunes créations, c'était des espaces où il y avait plus de jeunes étudiantes. Déjà elles avaient fait un parcours de la combattante pour arriver jusqu'à la professionnalisation, elles étaient peu, mais après, elles s'évaporent totalement au moment du tremplin. Et du coup, les rares qui restent encore sur place disparaissent après leur première grossesse. Donc, en fait, là, il y a à la fois un couloir de verre, un plafond de verre, mais il y a aussi une évaporation et un tunnel des 35-40 ans. Il y a un certain agisme, c'est-à-dire que l'artiste mère n'est plus aussi séduisante et intéressante que l'artiste, la jeune artiste. Voilà, donc c'était cette prise de conscience qui nous a amené à créer cette collective, donc que j'ai co-créée avec Marion Guyez. Et cette prise de conscience nous a amené à d'autres prises de conscience, puisqu'en fait, on a mis les mains dans le cambouis, on s'est retrouvés à entendre des récits de violences sexistes et sexuelles, et à accompagner, donc sur le tas, au début, des personnes victimes de violences, à la fois dans des parcours de restauration ou d'expression de cette violence, ou à la fois dans des parcours d'aller porter plainte au commissariat. Voilà. Donc tout ça, voilà, ce temps était un temps fondateur. Aujourd'hui, les tenaces, elles sont en transition. Comme elles regroupent énormément d'artistes, il y a envie d'explorer ce que pourrait être l'œuvre collective. C'est-à-dire qu'on a envie de travailler en collectif et on est en train de se projeter dans un déambulatoire à une douzaine aussi, qui s'appelle « Lichen prend racine comme Rosa prend le bus ». C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de laisser derrière nous nos revendications, nos exigences et nos engagements, mais davantage de travailler en Europe. C'est un projet qui a une échelle européenne. Et d'aller travailler à la fois sur des temps de résidence, c'est aussi sur des temps de masterclass, de workshop, de partage de pratiques avec d'autres personnes qui partagent ces dynamiques, ces envies motrices.
Voilà. Trop bien. Thank you. je reviens du coup sur cette thématique que vous avez accompagnée, enfin pas la thématique, mais en tout cas sur le volet dans lequel vous avez accompagné pour tout ce qui concerne les violences, pour les personnes qui ne le savent pas et qui nous écouteraient, que bah, y a un MeToo Cire qui a comme fait une petite onde de choc, enfin de choc en tant que femme. On n'était pas surprise, je veux dire, c'est les personnes qui ont vécu dans les écoles et qui ont passé par ces années-là avant ce MeToo, mais quand même, ça a réveillé un petit peu à certains niveaux, en tout cas de libération de parole, d'écoute, et bien sûr qu'on est encore loin d'atteindre une sécurité pour toutes les personnes qui suivent ces cursus professionnels, mais je voulais juste le spécifier pour les personnes qui ne savaient pas, voilà, de un. Et puis, j'ai oublié de mentionner aussi que tu es pédagogue à l'école du Lido à Toulouse. Mmh. Tu as accompagné beaucoup de fils de feristes. Et puis j'ai lu dans ta bio que tu as été blessée et que certainement, j'imagine, ça a pu conditionner aussi ta manière de repenser l'enseignement ou le CIR, ou comment se protéger de blessures graves. Et comme on parlait de pédagogie critique hier dans l'autre podcast, je voulais savoir comment toi, ton parcours en tant que fils de feristes dans les écoles supérieures, comment aujourd'hui tu vois une différence en fait dans la transformation de ton enseignement et de par ce que tu as appris ou qu'on t'a appris et qui a pu te faire du mal ou de par tes propres blessures et expériences personnelles.
En fait, on n'apprend jamais que ce que l'on transmet. On apprend aussi aux autres. On devient en tant que pédagogue des fois un modèle ou un. En tant que personne, on est un vecteur de transmission. Pas seulement pour un geste technique, mais en tant que ce qu'on est. Par exemple, moi, comme jeune artiste de cirque, j'ai travaillé à haut niveau et on ne m'a jamais appris à vieillir et on ne m'a jamais appris que j'allais être enceinte et on ne m'a jamais appris à faire une reprise après une grossesse. Et c'est d'ailleurs après cette grossesse que j'ai eu une blessure, c'est-à-dire que j'ai eu une éviscération d'une césarienne mal cicatrisée. C'est après cette grossesse-là que j'ai vécu le pire et ça a bousillé ma carrière. Donc en fait, ça, par exemple, c'est quelque chose dont je prends compte maintenant. De la même façon, il y a énormément de choses qu'on croit dans la forme, mais en réalité, on a affaire à des singularités. Et chaque personne doit digérer ce qui est transmis. C'est-à-dire que transmettre, c'est pas seulement donner un geste ou proposer une piste de travail, mais c'est aussi accepter qu'il y a un dialogue et de réduire l'écart hiérarchique et de créer des espaces de dialogue pour qu'en fait, la personne, en tout cas dans le cirque, c'est très fort, la personne qui va travailler techniquement quelque chose, l'interprète, parce que cette personne est aussi un ou une artiste. Et il y a, par exemple, dans le cirque, des espaces de pouvoir, comme les espaces de parade, moi j'avais identifié aussi la longe, il y a des espaces de pouvoir du pédagogue. Et peut-être que ce que j'ai transformé, parce que j'ai transformé quelque chose qui m'était transmis, c'est lâcher prise, perdre le pouvoir. Accepter le dialogue, c'est redonner du pouvoir à l'autre et surtout créer des espaces d'autonomie. Des espaces d'autonomie parce qu'aujourd'hui, il y a un truc génial qui s'appelle les réseaux sociaux qui crée des espaces en fait, d'échange de figures où en fait, les étudiants et étudiantes en fait, travaillent beaucoup en regardant ce qui se passe sur Instagram. Et moi, je trouve ça toujours génial en tant que prof de me retrouver en fait, parce qu'un ou une élève me propose une figure qui est sur Instagram, à décrypter la figure avec lui ou elle pour finalement travailler l'apprentissage de cette figure alors que moi-même, je ne l'ai pas pratiquée. Donc, si vous voulez, ça devient un endroit de collaboration. Donc, en fait, la pédagogie, je l'imagine davantage qu'un endroit de dialogue et de collaboration aujourd'hui. Voilà. Le cirque, on est vraiment sur des schémas de rapport de maître à élève, encore très très fort.
Oui, et puis il y a toujours encore dans cette façon d'enseigner aussi un rapport de compétition, en tout cas très fort, si ce n'est avec toi-même, on te l'inculque même à l'avoir avec toi-même, à vouloir toujours te dépasser, aller plus loin.
Oui, il y a une surenchère, mais ouais. Même en tant que professeur, en tant que maître, avoir des étudiants et étudiantes qui sont, on va dire, performants, qui brille, c'est extrêmement valorisant. Et je pense qu'il faut apprendre à apprécier chaque parcours, quel qu'il soit. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on, moi, ça m'a toujours fait rigoler, parce que comme j'ai eu les deux positions aussi, d'être et une élève de loisirs, et puis de faire mon parcours, et ensuite d'être pédagogue, et c'est vrai qu'il y a énormément d'enseignants, enseignantes dans le cirque, qui, quand ils ont eu des élèves pris dans des écoles supérieures, ou qui d'un coup réussissent, c'est mon élève, c'est moi qui lui ai appris, comme si la personne lui appartenait, alors qu'en fait, on sait bien que tout est spongieux, échange, inspiration, voilà, et qu'on ne fait pas quelqu'un, on l'accompagne, on peut le guider, on peut être un collaborateurisme, mais on ne fait pas et il nous appartient. Mais c'est ce discours-là, en fait, je trouve qu'il est souvent encore très très fort. Et même entre les écoles de cirque, souvent de dire « c'est mon élève » ou « il vient de notre école ». Bah non, c'est une personne, oui, qui a fréquenté ton lieu et que tu as pu accompagner un bout de chemin, mais tu n'as pas fait tout son bagage avant. Il y aura un bagage après. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper révélateur de ce que tu dis dans ce rapport aussi de pouvoir et de hiérarchie dans le cirque, en fait.
Il y a ça, et il y a aussi qu'en tant que professeur, tu ouvres des espaces professionnels aussi, des réseaux. Et accepter d'ouvrir ton réseau, de mettre en connexion un jeune artiste qui sort d'école tout frais moulu, de lui ouvrir ton réseau de partenaires, de lui ouvrir ton réseau de salles et tout ça, en lui laissant une certaine autonomie, sans gérer sa carrière, c'est aussi un effort à faire. Voilà, c'est un moment de lâcher prise et d'accepter en fait que voilà, la personne vole ses propres ailes. C'est vraiment parce qu'un prof, au niveau où j'enseigne, donc en école supérieure, donc sur du perfectionnement, juste avant la sortie des étudiants et étudiantes, c'est un prof qui va ouvrir un réseau. Et ça, c'est pas à négliger. Mmh. Voilà. C'est pour ça aussi que... Des fois, on peut avoir, en tant que prof et en tant qu'artiste, on continue à exercer son métier. Et du coup, on peut avoir dans sa constellation, d'un coup, des étudiants et étudiantes ou des artistes qu'on a côtoyés qui sont dans notre constellation. Et c'est accepter aussi qu'il peut y avoir un passage de relais, un renouvellement. Accepter qu'en fait, ces réseaux-là, on les a aussi usés et qu'il va falloir en ouvrir d'autres parce qu'on a l'assise pour le faire. Voilà, c'est très large. On ne transmet pas que le geste circassien, le geste technique.
Oui, c'est ça. C'est aussi, moi, je dis tout le temps aux gens aussi que les arts du cirque, c'est aussi un lifestyle. C'est pas juste une pratique, en fait. C'est un tout. C'est comment on vit les uns les unes avec les autres, comment on collabore les uns les unes avec les autres. Et que ce soit intergénérationnel, que ce soit international, que ce soit interpersonnel, c'est hyper important de garder ça à l'esprit. Et c'est vrai qu'hier, dans l'autre épisode, je trouvais intéressant les différents vocabulaires utilisés. Parce que, par exemple, Marie-André Robitaille, qui, elle, est originaire du Canada. Et du coup, il y a tout un autre vocabulaire aussi anglo-saxon, j'imagine, emprunté aux anglo-saxons pour parler du cirque. Mais quand même, il y avait une dimension beaucoup plus de produits, marchés, business et tout, que moi, je n'ai pas du tout dans mon vocabulaire quand je parle de cirque, par exemple. Et c'est vrai que, bien sûr, que c'est aussi... c'est un travail, c'est un réseau, c'est en effet aussi un business, etc. Mais on n'est pas du tout dans les mêmes façons d'appeler. Et du coup, ça me fait penser justement que, ouais, il y a entre la dimension technique, divertissement, il y a tellement de couches différentes dans le cirque, soit le cirque classique, traditionnel, le cirque contemporain, nouveau cirque, peu importe comment on l'appelle. Il y a mille façons de faire du cirque. Et ça reste effectivement un travail aussi pour les artistes. Mais du coup, je trouvais intéressant de discuter hier avec Marie-André Robitaille aussi. Donc, comment on doit naviguer entre ce qui est dans le spectaculaire, la virtuosité, la technique, et dans le sens, la dramaturgie, ce qui pour nous est politique et intime. Et puis, avec toutes ces choses-là, parce qu'il y a des personnes qui le voient d'une façon tellement binaire, de soit c'est le divertissement et c'est du cirque professionnel, soit c'est l'ultra-contemporain avec vraiment du sens politique. Mais en fait, tout est aussi pour eux, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, il n'y a pas que l'un que l'autre. Mais quand même, au niveau juste pratico-pratique, j'avais demandé hier à Marie-André qu'est-ce qu'elle, ou quelle était sa méthode, comment elle pensait la pédagogie pour qu'il y ait des deux. Parce que souvent, il y a des écoles qui se disent c'est impossible, en fait, le cirque, ça prend tellement d'heures d'entraînement pour arriver à une certaine virtuosité. Nous, on ne focalise pas sur l'artistique ou le sens, parce que d'abord, il faut apprendre la technique. Et d'autres écoles qui disent mais nous, on trouve que c'est important de réfléchir au sens. Donc, peu importe, l'élève vient avec la technique qu'il a et nous, on travaille surtout son artistique et puis sa voix singulière. Et qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? Comment pouvoir guider et transmettre les deux? Parce que c'est sûr que la technique, on en veut, c'est du cirque et on aime ça, on ne va pas se mentir, on aime bien aussi. Et en même temps, toi, tu viens aussi d'une compagnie qui aime apporter du sens et du politique et de l'intime. Comment tu te situes par rapport à ça ?
Moi, j'ai envie de dire que, déjà, pour commencer, j'ai une grande exigence du geste technique. Un geste technique peut être à l'épure. Il n'y a pas... Voilà, c'est un geste technique qui est travaillé, c'est un geste précis. Ça permet, après, de travailler, justement, sur comment lui donner du sens. Mais des fois, ça se passe aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'une obsession, c'est-à-dire une idée. Je veux absolument faire ça. Je veux absolument jongler avec les pieds. Je veux absolument marcher sur un câble avec les mains dans les poches. Je veux absolument faire du trapèze, mais en équilibre sur la barre de trapèze, sans jamais me suspendre. Des obsessions comme ça, en fait, c'est des obsessions d'artistes qui créent des techniques. Je pense par exemple à une artiste que j'ai pas mal suivie depuis des années, qui s'appelle Mariana De Sanctis, qui a réinventé le hula hoop à sa façon, avec ses cheveux, avec ses jupes, parce qu'elle a des espèces d'obsessions. Donc je pense qu'il y a plusieurs chemins déjà. Et il y a quelque chose dont j'ai envie de parler, c'est qu'il y a quelque chose qui a beaucoup questionné pour moi ma pratique et la façon de faire de la pédagogie, et surtout qui a renouvelé mon regard sur les arts du cirque, c'est la question de la personne non valide. Je vais m'expliquer, je travaille, donc moi je signe, j'ai travaillé pendant 15 ans avec des artistes sourds, des adultes, souvent comédiens ou danseurs, autour des arts du cirque, donc sourds et un jongleur sourd. Et depuis 2 ans, je mets en place avec l'Institut des jeunes aveugles du cirque au toucher. Donc, je travaille avec des personnes aveugles et j'ai aussi développé par le biais de laboratoires, donc toujours in situ, un travail avec des personnes paraplégiques et des porteurs. En fait, là, le cirque ouvre des champs de possibles incroyables. Et j'ai trouvé des espaces de réinvention dans la collaboration avec ces personnes étonnants, à la fois dans la pédagogie, mais aussi dans les images, la façon dont elles se renouvellent, dont elles sont perçues. C'est un régal. C'est-à-dire que je crois aussi qu'il ne faut pas fermer. Moi, c'est un peu mon créneau, c'est-à-dire que je travaille toujours dans des espaces ouverts, in situ, dans des jardins, dans des parcs, dans des cours, dans des halles, parce qu'en fait, j'aime l'idée que ça s'hybride. J'aime l'idée que ça s'hybride et j'aime l'idée, en fait, que les espaces de cirque, même les espaces de professionnalisation, soient ouverts. Qu'il y ait des amateurs qui voient ce que les pros ou les prochains pros, les semi-pros font, que les pros voient ce que font les amateurs et qu'il y ait une espèce de brassage. Je trouve qu'aujourd'hui, on a trop cloisonné. C'est les loisirs d'un côté, les pros de l'autre. Moi, je dis même il faudrait que des pros puissent revenir s'entraîner dans les écoles de cirque. Je ne comprends pas pourquoi les écoles de cirque ont été cloisonnées et fermées comme ça. Pour moi, ça devrait être des moulins. Alors oui, je sais, il y a la question de la sécurité, mais ça se gère. Je pense que ça se gère très bien. Mais bien encadré, ça peut être. Mais je pense que les écoles de cirque se sont fermées. Et une école de cirque, ce n'est pas un gymnase. On a parlé de lifestyle, c'est aussi une philosophie dit. Et c'est un droit de métissage et de rencontre. Personne n'appartient à personne. Justement, on se fait en butinant à droite et à gauche, en observant, en écoutant. Et en se disant, tiens, ça et ça, je vais l'assembler. Et moi, je crois vraiment à ça. C'est un art de la transmission, de l'oraliture. Et voilà, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas encore vraiment dans cette façon, cette formalisation, cette institutionnalisation du cirque contemporain. C'est quelque chose, je trouve, qui s'est perdu. Et il y avait une vraie richesse à cet endroit-là. Parce qu'après, tu te retrouves à le faire en tant que professionnel. Tu te retrouves à travailler in situ dans un cabaret, dans un chapiteau. Tu te retrouves à travailler avec des artistes plus traditionnels, plus contemporains.
On doit s'adapter pour trouver du travail.
Du parcours, tu te retrouves à faire plein de choses. Et je pense que c'est dès le départ. Il pourrait y avoir dans les écoles de cirque des gens qui viennent faire du parcours, il pourrait y avoir des gymnastes, enfin, on pourrait aller faire du trampoline dans les gymnastes. Enfin, je pense qu'il y a des passerelles qui ont été coupées, je trouve ça dommage.
Si tu avais une baguette magique là aujourd'hui qui te permettait de révolutionner comment le cirque est aujourd'hui transmis, ce serait quoi ton idéal ? Si là maintenant on dit Yael, tu fais comme tu veux, on te donne un lieu, on te donne l'argent, tu refais un centre d'art du cirque où tu fais. Comment tu ferais ?
Alors, je débinariserai toutes les pratiques, je célébrerai les différences et les échecs. Voilà, je commencerai par là. Et en fait, il n'y aurait pas de clé. Tout le monde pourrait rentrer et sortir.
Trop bien. Et si tu pouvais redonner un conseil à toi plus jeune quand tu as commencé, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui ? Avant que tu rentres dans une école de cirque, qu'est-ce que tu dirais maintenant à un ou une élève qui commence son parcours ?
Ne laisse personne te toucher si tu n'as pas envie d'être touché par cette personne. Si tu ne te sens pas à l'aise avec une personne, va-t'en. N'aie pas peur de dire ce que tu penses. Il y a plein de ressources ailleurs. Et ne laisse personne te dire ce que tu dois faire ou qui tu dois être.
Voilà, c'est un très beau mot pour la fin. Je te remercie beaucoup pour cet entretien.
Ben, de rien.